commençons maintenant la session des questions et des réponses avec une première question ici à Kinshasa, sur ma gauche. Oui, monsieur.
Merci beaucoup, madame. C'est Patient Tambana, vos journalistes de Beni, à la radio-télévision Rwanzuru Beni, mais aussi du journal Rafiki. Ma question s'adresse au porte-parole de la MONUSCO de l'armée, au Nord Kivu, le colonel. Je voudrais savoir, mon colonel, ce n'est même pas 2 mois depuis que la MONUSCO et l'armée congolaise ont affirmé avoir réduit les ADF dans les territoires de Beni à plus de 95%. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les ADF maintenant se sont réorganisés jusqu'à ce qu'ils ont maintenant une puissance de feu plus que la MONUSCO, voire même l'armée congolaise. Imaginez parvenir à attaquer même la base de la MONUSCO au point kilométrique 25 dans le village Mamundioma, mais aussi à tuer plus de 20 personnes au point kilométrique 40 juste à côté de la base de la MONUSCO du Pôt Semouliki. Je ne sais pas si les ADF sont devenus plus forts que la MONUSCO ou c'est comment. Avec votre mission de protection de la population civile, mais on continue toujours à tuer la population civile dans le Nord Kivu.
Nous avons bien compris votre question. Je vais demander au lieutenant-colonel de répondre à la question et je la compléterai ici à Kinshasa, notamment sur le volet de protection des civils. Goma, c'est à vous.
Oui, merci pour la question. Tout d'abord, je voudrais réitérer les pensées, les sincères condoléances de la force aux familles qui ont été endeuillées par ce drame qui est survenu. La force souhaite un prompt rétablissement aux soldats blessés pendant cette attaque. Alors, pour revenir à la question, il est inutile de dire que un groupe armé a des moyens supérieurs à la force de la MONUSCO ou à d'autres forces. Cela montre que effectivement le confrère journaliste ne maîtrise pas nécessairement des questions militaires.
Je vais peut-être reprendre la question.
L'événement qui est intervenu et que tout le monde déplore, c'est vrai.
Colonel, s'il vous plaît.
Les casques bleus, ce 9 octobre 2017, se sont battus à la base Mamundioma avec professionnalisme et beaucoup d'héroïsme. Ça, il faut le dire. On a l'occasion d'apprécier tous ces éléments-là. Et donc, ce combat a duré presque 1h32 avant que le renfort soit parvienne sur le terrain pour finir avec ces éléments-là. Alors, quant à dire que c'est vrai que pendant un long moment, les ADF autour de Beni ont presque disparu ou ont fait profil bas parce qu'eux-mêmes ont compris que la force qui était, ou les forces qui étaient en face d'eux étaient supérieures. Alors, et ces éléments, ça donnait aux activités de prise en otage ou de cambriolage. Alors, subitement, c'est vrai, ça c'est quoi je dis que c'est vrai, ces éléments ont repris un peu de force et il faut le dire haut et fort qu'ils ne sont pas supérieurs aux forces en présence. Je m'arrête là.
Merci, colonel. Je rappelle que déjà le 17 septembre dernier, à Mamundioma, un soldat de la paix tanzanien avait été tué et un autre blessé lors d'affrontements entre une patrouille conjointe FRDC MONUSCO et des éléments présumés des ADF. Donc on le voit, on assiste à une recrudescence des activités des présumés éléments ADF dans le territoire de Beni. Des attaques qui concernent non seulement les positions de l'armée congolaise, mais aussi des civils, et on l'a vu, une position de la MONUSCO. la MONUSCO, dans le cadre de son mandat de protection des civils, et on vous l'a dit depuis le début de cette conférence, a donc déployé des moyens sur place. Le commandant adjoint de la force est sur place depuis lundi afin de diriger les opérations, car notre objectif reste et restera celui de la protection des populations civiles qui vivent sous la menace des groupes armés dans cette région, mais partout ailleurs en République démocratique du Congo. On va prendre une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Merci, madame Florence, pour la parole. Monsieur Papi, journal télévisé Congo Info. Madame, toujours sur ce thème des troubles à l'Est, il y a plusieurs questions qui se posent au milieu public. À chaque fois que les autorités congolaises appellent à la réduction de la présence de la MONUSCO, nous constatons qu'il y a création de certains groupes armés et recrudescence des troubles à l'est de la RDC. Et la population soupçonne certaines ONG internationales qui seraient à la base de tout ça pour essayer de maintenir leur position en RDC. Qu'en dites-vous, madame Florence?
Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de propos, et face à la gravité de ces propos, je vais peser vraiment les mots de ma réponse. Comme vous le savez, la MONUSCO et les Nations Unies sont dans ce pays pour apporter une paix durable, ramener le pays vers la stabilisation et le conduire vers le développement. J'ai la preuve à côté de moi avec le représentant du PAM et de la FAO qui tous les jours essayent d'apporter un réconfort aux populations congolaises. Donc nous sommes ici avec ce mandat. Concernant la MONUSCO, le mandat est clair. Deux objectifs selon la résolution 2348. Le premier, protection des populations civiles. On l'a vu avec ce qui s'est passé la semaine dernière à Uvira et ce qui se passe actuellement à Beni. Deuxième préoccupation, s'assurer que l'accord du 31 décembre soit effectivement mis en œuvre afin de conduire le pays vers des élections. C'est le cadre dans lequel nous intervenons. Une mission de maintien de la paix, par essence, est une mission temporaire qui n'a pas vocation à rester dans un pays. Et c'est la raison pour laquelle les conditions de départ d'une mission de maintien de la paix sont encadrées. Elles sont encadrées également par les résolutions du Conseil de sécurité sur le mandat de la MONUSCO. C'est ainsi que depuis plusieurs années déjà, la MONUSCO et le gouvernement de la RDC ont entamé un dialogue stratégique pour voir dans quelles conditions la MONUSCO pourrait quitter le pays et également transférer ses activités aux représentants de l'équipe de pays, qui eux étaient là avant la MONUSCO et resteront après la MONUSCO. Vous l'avez vu récemment, en Côte d'Ivoire, une mission a fermé, ce qui est la preuve qu'une mission de maintien de la paix n'est pas amenée à rester indéfiniment dans un pays. Donc tout lien entre la recrudescence des conflits et le départ de la MONUSCO ça relève d'une accusation qui est très grave et qui ne correspond pas du tout à la nature du mandat qui nous a été donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons maintenant aller à Goma où nous allons prendre deux questions.
Merci Florence, on va donner la parole à gauche ici.
Merci Sikumbo, c'est Darren Maurice, Track Magazine. Mon colonel, je reviens à vous. La situation de Beni préoccupe tout le monde, ou tous les Congolais en général. Mon colonel, à faible distance de votre base, il y a la position de l'FRDC. Comment se peut-il que ces derniers n'ont pas réagi lorsque votre base a été attaquée? Juste votre réaction, j'ai parlé.
Merci pour votre question. Alors, vous dites... La force, les FRDC sont à quelques distances de la base et il ne faut pas faire d'amalgame. Ouais, ne faites pas d'amalgame. Ici, posez des questions sur ce qui est arrivé et ce que la force de la MONUSCO a fait. Et permettez, donnez l'occasion également à nos partenaires également d'intervenir et peut-être de dire ce qui a été fait. Et ce qui a été fait par la MONUSCO, ce qui est arrivé, ce que la MONUSCO a eu à faire, on vous l'a dit, et la base de la Mamoudou Diouma a été défendue par la force de la MONUSCO. Aussitôt, un déploiement a été, un renforcement le déploiement a suivi et actuellement les axes de Mbao jusqu'à Mahmoud Diouma, ces axes-là, enfin cet axe est sécurisé, les autres pénitentes sont sécurisées et pour permettre aux populations de continuer à circuler. Alors face à ça, ne demandez pas que je parle en tant que porte-parole de la militaire de la MONUSCO, je parle de ce que nos partenaires. C'est vrai, il y a eu des contributions, mais je ne peux pas aller dans ces détails de vous faire un bilan par rapport à ça. Merci.
Nous prenons une deuxième question à Goma.
Oui, Papi Okito du journal Écho d'Opinion. Mon colonel, je m'adresse aussi à vous. Juste savoir, la brigade est composée de Malawites, des South Africans et puis des Tanzaniens. Mais sur le terrain, nous voyons rien que des Tanzaniens qui perdent la peau sur terrain. Que font ces Sud-Africains ici à Sake et ces Malawites en train de faire des fêtes ici que les Sud-Africains, alors que la brigade devait vraiment faire partie de ces rebelles, mon colonel. Merci.
Merci également pour votre question. Je crois que, journaliste comme que vous êtes, ne vous mettez pas à accuser, à appeler des pays, des noms de pays, ainsi de suite. Mais posez votre problème de façon claire. Et c'est vrai, plusieurs pays font partie de cette force-là qui est au niveau de Bénin et autour. Et chaque composante, on ne mélange pas des composantes de pays et pays. Mais chaque composante a son secteur. Alors, ne demandez pas à savoir pourquoi d'autres sont ailleurs ou d'autres. Mais chaque composante reçoit sa mission et part pour défendre sa position. Alors, c'est plutôt ça. Rapprochez-vous de nous pour qu'on vous donne plus de détails tactiques sur ce qui se fait, plutôt que de faire des suppositions. Merci.
Nous revenons ici à Kinshasa, où je vous rappelle que nous avons deux invités qui peuvent vous parler des problèmes d'alimentation et de sécurité alimentaire. Une question, oui, madame, sur ma gauche.
RTNT2 Développement, Laetitia Massina. Je pose ma question à Yvan. De nombreux réfugiés congolais en Angola se disent abandonnés par manque d'assistance de la part des humanitaires. Le plaidoyer que vous avez proposé pour une augmentation du montant pour assister efficacement le réfugié a-t-il été entendu? Autrement dit, le 8 millions de dollars que vous avez exigé pour une assistance sur le terrain humanitaire a-t-il été satisfait? Merci.
Je crois avoir répondu à la deuxième partie de la question. En ce moment, nous sommes à 30% de financement sur 812,5 millions. On n'a jamais vu ça. C'est le niveau le plus bas de ces 10 dernières années. Donc, on peut dire que, quelque part, le plaidoyer qu'on a lancé n'a pas encore été entendu, entre guillemets. Pour ce qui concerne les réfugiés, malheureusement, mon collègue Andreas du HCR n'est pas là. Donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais je sais qu'effectivement le HR est très actif évidemment sur ce sujet, mais je ne peux pas m'avancer là-dessus.
Merci. Une deuxième question à Kinshasa. Oui, madame.
Je suis Patricia Panzou pour BioOne Télévision. Madame Florence, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est à New York. Et au cours de cette discussion, on va justement parler de la requalification du mandat de la MONUSCO et de son redimensionnement justement de ses troupes. Est-ce que cela aura un impact sur la mission en RDC? Et j'aimerais poser une autre question à Monsieur Alexis Bonté. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo? Il y a quelques jours, la loi sur l'agriculture modifiée a été déposée au Sénat. Est-ce que vous pensez que cette loi va quand même booster l'agriculture dans notre pays?
Merci Patricia. Alors pour la première question, une clarification. Monsieur Sidikou est actuellement à New York, donc devant le Conseil pour participer à une réunion de Conseil de sécurité. sur la présentation du rapport trimestriel sur la situation en République démocratique du Congo et les activités de la MONUSCO. Donc un rapport qui est présenté tous les 3 mois. Vous faites allusion à un autre rapport qui a été rendu public il y a quelques jours, qui est celui de la revue stratégique des activités de la MONUSCO. Ce rapport est également avec le Conseil de sécurité, qui est en train, ce rapport contient des recommandations et propose des options au Conseil de sécurité sur le mode de fonctionnement de la MONUSCO, afin de lui permettre de répondre, comme vous l'avez souligné, aux restrictions budgétaires qui affectent les opérations de maintien de la paix. Donc ce second rapport est actuellement avec les membres du Conseil de sécurité qui vont se l'approprier et qui ensuite seront les seuls à décider s'ils retiennent ou non les recommandations de ce rapport, car je vous le rappelle, ce sont les seuls qui sont habilités à nous donner notre mandat en votant des résolutions. Donc voilà la réponse concernant votre première réponse, votre première question, pardon. Alexis, il y avait aussi une deuxième question. Normalement, le règlement interne dit que c'est seulement une question, mais allez, on fait une petite exception aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup pour la question. Donc pour le développement de l'agriculture, il faut voir deux agricultures, l'agriculture industrielle, donc les grandes plantations, et l'agriculture familiale. Donc pour les grandes plantations, comme on le sait, il y avait cette loi, l'article 16, qui limitait les investissements étrangers à 49% des parts dans leur investissement. Et donc ça en voie de s'améliorer. Mais il n'y a pas que ça qui posait problème, parce qu'il y a beaucoup de fermes abandonnées qui pourraient être remises en état de marche. Mais malheureusement, la semaine passée encore, j'étais avec un grand investisseur ici à l'intérieur du Congo, qui lui abandonne l'agriculture. Il a des dizaines de milliers d'hectares et se concentre uniquement sur, par exemple, la construction de barrages hydroélectriques. La principale raison, c'est la logistique, les infrastructures qui sont complètement défaillantes, et deuxièmement, les tracasseries. Donc il dit que ce n'est même plus rentable de faire de l'agriculture, parce que entre ce que vous produisez, ce que vous devez payer aux producteurs, et votre marge bénéficiaire, les coûts de transport, il dit que ce n'est plus vivable. Plus ce qu'on appelle les tracasseries, ou lui il a employé le mot de le racket. Donc il dit pour l'instant, c'est quasiment impossible de pouvoir investir dans un tel climat. Mais il y a un exemple qu'on m'a relaté hier au sud de Guémena, je ne vais pas mentionner le nom de la personne, mais qui a, je pense, c'est de l'ordre de 15 000 hectares, dont 6 500 hectares depuis 6 mois qui ont été mis en valeur avec de l'huile de palme, de l'EVA et du cacao. Et cette personne, son avantage, c'est qu'elle fait à la fois la production en Équateur, à Guémena, la transformation sur place, mais également elle contrôle la chaîne de transport. Donc c'est une personne qui a des ports et des barges. Donc une fois que vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne, il y a moyen que ce soit rentable. C'est à partir du moment où vous ne maîtrisez pas l'ensemble de la chaîne où vous avez affaire à toutes ces tracasseries et cette plus-value sur les personnes intermédiaires qui ne font qu'augmenter le prix et réduire les bénéfices des producteurs. Donc c'est surtout le climat des affaires qu'il faut améliorer. Et également, il faut une certaine forme de stabilité pour qu'il y ait des investissements étrangers qui viennent, mais également des facilités à l'investissement pour des investisseurs nationaux. S'il n'y a pas de ligne de crédit, comment est-ce que les investisseurs vont pouvoir essayer de réparer les infrastructures, surtout de ces fameuses fermes abandonnées qui existaient depuis les années 50-60 et qui maintenant ont été abandonnées par manque de facilité. Donc ça, c'est pour l'agriculture industrielle et l'agriculture familiale. Il faut savoir que là aussi, il y a eu très peu d'investissements. La plupart des investissements que l'on fait à l'heure actuelle sont des projets qui sont de court terme. Une année, 6 mois, une année, 2 années. Ce n'est pas avec ça qu'on va changer le niveau de vie des populations, d'autant plus quand on regarde l'ampleur de la demande. Le milieu rural a été abandonné pendant des décennies. Maintenant, ce n'est même pas à zéro qu'il faut commencer, c'est presque en dessous de zéro. Les gens transforment des lames de ressort pour fabriquer des houx. Comment est-ce que vous voulez que les gens soient productifs avec des lames de houx pour cultiver la terre? Donc il y a vraiment un énorme investissement. Et en fait, pour le secteur agricole, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il faut un plan Marshall du secteur agricole au Congo. Et la nature ici est tellement généreuse qu'il n'y a pas de doute que ça puisse être rentable. Le tout, c'est qu'il faut un réinvestissement et également limiter les tracasseries à tous les niveaux.
Merci. Nous allons à Goma pour une question.
Merci. C'est Rodriguez Katouva. Je suis le correspondant de Radio Vatican et éditeur chez Abba RDC. C'est honorable, j'aimerais présenter d'abord mes condoléances au casque bleu. C'est honorable quand un militaire tombe pour son pays, c'est encore plus honorable quand il tombe pour un autre pays que le sien. Mais je voudrais demander, et cette fois-ci pas une réponse évasive, est-ce que vos renseignements connaissent ou ont des idées d'où se sont procurés en armes ces nouveaux présumés ADF? Est-ce que les services de renseignement de la MONUSCO ou votre collaboration avec les FARDC donnent quand même une floue idée sur d'où viendraient les armes qu'ont ces présumés rebelles ADF? Une réponse concrète et non pas évasive comme c'est souvent le cas. Merci.
Alors je vais vous apporter une réponse concrète pour vous dire que j'ignore l'origine de ces armes, mais que votre question me permet de vous rappeler que l'une des tâches assignées à la MONUSCO par le Conseil de sécurité est de surveiller en coopération avec le groupe d'experts la circulation des armes en RDC. Et je vous renvoie au paragraphe 35 de la résolution 2348. Nous reprenons une question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Merci, Florence. Albert Omban America. Je voudrais un peu revenir au Kasaï où on a trouvé un cas de violence assez significatif, une dame qui a été violée d'une manière assez atroce. Est-ce que la MONUSCO, par ce service de violence sexuelle et consorts, a pu documenter les cas et prendre certaines mesures à ce sujet?
Alors, comme vous le savez, nous faisons un monitoring très précis de tout ce qui se passe, et notamment des violations des droits de l'homme. Ça répond à des procédures particulières. Donc, nous documentons les cas avant de pouvoir se prononcer de façon plus détaillée sur leur nature exacte. Plus globalement, en ce qui concerne le Kasaï, vous en souvenez, une mission d'experts. Il a été décidé par le Conseil des droits de l'homme en juin dernier d'ouvrir une enquête sur les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises dans la région des Kasaï. Et il avait été prévu que l'ONU apporte un appui technique à la manifestation donc de cette vérité voulue par tous. Et donc, des experts ont été nommés et ces experts vont arriver dans les jours prochains en République démocratique du Congo afin de pouvoir participer à cette enquête sur les violations donc commises dans la région des Kasaï. Nous allons reprendre une dernière question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Merci madame de la parole. Mesdames Mouyaya du journal Le Potentiel. Madame Florence, je crois à l'une des précédentes conférences de presse ici, la MONUSCO a soutenu la position de la réunion parallèle tenue lors de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation qui prévaut en RDC. Il a été dit que il a été mis sur pied, décidé de mettre sur pied une équipe d'experts devant venir en appui au plan financier, technique et logistique à la CENI en vue de l'organisation des élections. Et il a été dit aussi que la mise en œuvre effective de l'accord de la Saint-Sylvestre passe par la publication rapide du calendrier électoral. Ça nous a tous flattés, mais je voudrais seulement savoir à votre niveau qu'est-ce qui a été fait depuis que cette initiative a été prise. Est-ce que le gouvernement congolais a entendu ce son des cloches pour faire avancer les choses?
Donc, nous appelons toujours à la publication de ce calendrier électoral et nous ne sommes pas les seuls. Nous appelons depuis plusieurs mois à la publication non seulement de ce calendrier, mais aussi d'un budget. Cela a été inscrit dès la fin mars dans la résolution 2348, car pour nous, la publication de ce calendrier est une étape clé dans le processus électoral qui nous conduira donc vers des élections libres, justes, crédibles et pacifiques. Concernant la proposition faite à New York dans la réunion du 19 septembre de mettre à disposition un groupe d'experts, le dossier est toujours à l'étude et nous attendons que les différents partenaires attendent que la CENI se rapproche d'eux pour pouvoir voir comment cette équipe peut être mise en place. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il est midi pile. Je rends l'antenne à Radio Okapi. Je vous remercie. À la semaine prochaine.